France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction de Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra tout d'abord en Ukraine après qu'une vaste opération anticorruption a été lancée contre plusieurs personnalités proches du pouvoir, soit les prémices possibles d'un important scandale politique. Nous serons par ailleurs au Brésil où s'est ouverte hier la grand-messe des Nations Unies sur le changement climatique. Quelles attentes et surtout, quelles solutions? On posera la question à notre invité. À suivre également, des dizaines de milliers de patrons en Allemagne sommés de rendre l'argent versé pendant la crise sanitaire. On parlera suspension de la réforme des retraites en France. Et puis on écoutera l'avocate de Salah Abdeslam nous expliquer que son client, condamné à la perpétuité incompressible, souhaiterait désormais discuter avec les victimes et familles des victimes des attentats du 13 novembre. C'était il y a 107 ans, le 11 novembre 1918. L'armistice mettait fin provisoirement au combat de la Première Guerre mondiale. Alors il y a plus de 3 ans, aux portes de l'Europe a ressurgi ce que l'on pensait définitivement appartenir au passé avec le conflit en Ukraine. L'histoire bégaye, ligne de front, tranchées, fortifications improvisées, un parallélisme qui fait aussi surgir le spectre de l'enlisement et d'une guerre d'usure qui s'étale sur le long terme. En attendant, l'armée de l'envahisseur russe continue d'avancer dans l'Est et notamment de la région de Donetsk où se concentre à présent l'essentiel des combats. Hier encore, Moscou y a revendiqué la prise de 3 nouveaux villages. Et c'est donc dans ce contexte, autant dire au pire moment, que 2 proches du pouvoir ukrainien, le ministre de la Justice et le copropriétaire de la société de production de Volodymyr Zelensky, se retrouvent depuis hier dans le viseur des enquêteurs chargés de la lutte anti-corruption. Les précisions depuis Kiev de Bastien Bory.
20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Si l'énergie en Ukraine est ciblée par les bombardements russes, c'est aussi parce qu'elle est pour Kiev un secteur des plus lucratifs où les luttes d'influence se règlent rarement en douceur. Premier sur la liste des perquisitionnés, Herman Galushchenko, actuel ministre ukrainien de la Justice et ancien ministre de l'Énergie, accusé de surfacturation massive. Le second est Timur Mindich, ami du président Zelensky et investisseur à l'Empire sans frontières, des médias et du cinéma en Ukraine jusqu'au secteur diamantaire et pétrolier en Russie, un profil on ne peut plus embarrassant pour Kiev en pleine guerre contre Moscou. Troisième acteur, Volodymyr Koudritsky, ex-patron de la compagnie nucléaire Ukraine Ergo, accusé de détournement de fonds. Sur les 70 perquisitions menées hier, beaucoup concernent l'entourage du président ukrainien Zelensky qui veut éviter la colère d'une population déjà touchée par de longues coupures d'électricité quotidiennes. Le palais présidentiel exige donc le respect des enquêtes lancées par les agences anticorruption dans ce qui ressemble à une réorganisation du secteur énergétique pour répondre aux standards occidentaux en matière de transparence et pérenniser ainsi le soutien financier de l'Europe dans cette guerre.
Bien que malmenée, la trêve en cours à Gaza est entrée ce matin dans son second mois. Hier, une délégation américaine emmenée par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour évoquer la deuxième phase du cessez-le-feu, a priori bien plus complexe à mettre en œuvre dans l'enclave palestinienne.
Après plusieurs décennies de guerre et de répression, l'Irak a connu ces dernières années une stabilité inhabituelle.
Ce qui n'empêche pas ses habitants de souffrir, toujours d'infrastructures largement défaillantes, mais aussi d'une corruption endémique. Alors les élections organisées aujourd'hui apporteront-elles un peu de changement? Beaucoup en doutent et perçoivent surtout ce scrutin comme une mascarade ne pouvant profiter qu'aux élites politiques du pays. Parce que le temps presse, même si la course pour lutter contre le réchauffement climatique devrait s'assimiler à un sprint final jusqu'à en perdre le souffle, elle s'apparente bien davantage et depuis longtemps déjà à un marathon de longue haleine condamné à ne jamais s'achever. Et en ce sens, peut-être que la énième conférence des Nations Unies qui s'est ouverte hier en Brésil n'est-elle pas encore totalement vouée à l'échec, à la condition toutefois que l'inaction des dernières décennies nous contraigne à des mesures drastiques pour limiter les dégâts à l'échelle planétaire. C'est ainsi qu'à défaut de miser sur d'interminables négociations pour un nouveau grand accord mondial, le pays hôte de cette COP30 préfère parier aujourd'hui sur une série d'engagements volontaires des États sur des thèmes concrets. Se lamenter n'est pas une stratégie, nous avons besoin de solutions à renchérir le chef de l'ONU Climat. Il n'empêche que les données relatives aux progrès accomplis ces dernières années donnent à réfléchir. Depuis le premier sommet consacré à la crise climatique, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté d'un tiers et les températures mondiales sont en passe de franchir des seuils qui, selon les scientifiques, entraîneront des dommages catastrophiques pour la planète. Véronique Robert-Horde, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Culture à Bellem. Comment réussir à ne pas céder au fatalisme? Vous êtes, Véronique, en compagnie de Benoît Faraco, ambassadeur français pour le climat. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Oui, bonjour Benoît Faraco.
Bonjour.
La COP donc, s'est ouverte sur un constat d'échec, c'est vrai. L'objectif de l'accord de Paris, qui était de ne pas dépasser les 1,5 degrés d'ici la fin du siècle, eh bien, n'est plus réaliste, hein, c'est clair. Cet objectif sera durablement atteint dans les toutes prochaines années. En d'autres termes, l'accord de Paris s'est plié?
Alors non, vraiment pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est réunis aujourd'hui à Bellem pour une quinzaine de jours, justement pour essayer de retrouver un nouveau souffle, un peu d'espoir. Sans doute en faisant un peu les choses différemment. On a posé le cadre il y a 10 ans à Paris. Cette année, c'est un rendez-vous important. Un rendez-vous important pourquoi ? Parce que tous les 5 ans, tous les pays de la planète doivent venir déposer leurs nouveaux objectifs pour le climat.
Et là,
à ce stade, le résultat est assez mitigé. On a une centaine d'États qui ont fait leurs devoirs, qui ont présenté leurs objectifs, et puis une centaine qu'on attend encore et dont on espère qu'ils publieront leurs engagements avant la fin de la COP30. Sinon, effectivement, comme vous le disiez, on risque de louper notre dernière chance, finalement, de respecter cet objectif de 1,5 degré et surtout de vivre une décennie prochaine qui sera extrêmement inquiétante du point de vue des impacts du changement climatique.
Il faut les remotiver.
Alors, il faut remotiver tout le monde, d'autant plus que 10 ans après l'accord de Paris, quasiment toutes les solutions sont sur la table. On sait installer des énergies renouvelables, on sait développer des transports propres, on sait construire des logements qui consomment très peu d'énergie, qui sont plus confortables, plus accessibles. Les solutions, elles sont à portée de main partout sur la planète. La question, c'est comment on fait maintenant pour les déployer massivement le plus vite possible.
Alors, les émissions de CO2 continuent d'augmenter au niveau mondial. Il faut s'attaquer aux racines du mal. Hein. C'est facile, sortir des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. C'est un sujet délicat ici, de façon un peu contradictoire. Ça peut fâcher les producteurs de pétrole. Est-ce que Lula, il va être l'homme de la situation pour aborder cette sortie? Il parle d'une sortie ordonnée des énergies fossiles.
Alors oui, on a décidé il y a 2 ans, à la COP à Dubaï, à la conférence sur le climat, la COP28, de sortir progressivement des énergies fossiles. Pourquoi ? Parce que le pétrole, le gaz et le charbon, c'est 80% du problème. Le reste, c'est la déforestation. On s'en occupe aussi ici à Bellem. Mais on sait que d'ici 2050, il faudra avoir remplacé ces énergies fossiles par d'autres solutions. Le nucléaire, les énergies renouvelables, la réduction de la consommation d'énergie. Et c'est ça qu'on doit essayer de faire aujourd'hui. Lula, depuis quelques jours, il nous dit, est-ce qu'on pourrait essayer de se mettre d'accord ici ? Et on sait que c'est difficile. Sur une feuille de route pour sortir des énergies fossiles. Ça veut dire concrètement comment on fait, étape après étape, dans les différents secteurs, pour remplacer le pétrole, le gaz et le charbon par des solutions alternatives qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Alors évidemment, il y a un certain nombre de pays que ça questionne, notamment ceux qui produisent ces hydrocarbures, mais qui peuvent être aussi partie de la solution. Il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui produisent du pétrole, du gaz, et qui pourraient demain produire du carburant de synthèse pour l'aviation, par exemple, ou du biogaz à la place du gaz, et donc être aussi partie prenante de cette solution. C'est une des discussions qu'on veut avoir ici en France, que la France veut avoir avec ses partenaires, pour essayer justement de construire ces solutions.
Alors Lula, comme il est gonflé, parce qu'il vient d'autoriser de nouveaux forages en Amazonie, en gros, il dit c'est tout le monde, ou alors chacun continue à faire ce qu'il veut, et moi aussi, je vais faire un peu de pétrole en attendant.
Alors effectivement, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on en est à la 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, c'est que si c'était simple, on n'aurait pas besoin de se réunir tous les ans au mois de novembre ou au mois de décembre, et on est tous face à un certain nombre de contradictions. On sait qu'il faut sortir du pétrole, on sait qu'il faut sortir du gaz, on sait aussi que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts et que ça va continuer encore quelques années.
Lula a dit aussi hier dans son discours, le président donc brésilien, il est temps d'infliger une nouvelle défaite aux négationnistes du climat. Alors il a cité personne, mais on voit bien qu'il parle de Donald Trump, qui fait quand même un vrai travail de sape hein, contre la lutte contre le changement climatique. Est-ce que c'est l'ennemi numéro un de ce qui se passe ici?
Alors,
Donald Trump,
l'ennemi numéro un, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de questionner en permanence la science. Ça fait 30 ans qu'on négocie sur la base de rapports scientifiques. Le GIEC, qui est un groupement international de scientifiques, qui nous fait une synthèse de tout ce qui se passe sur la planète, qui nous donne justement ces informations. Il faut protéger la science et il faut protéger aussi tous ceux qui agissent. Les entreprises, y compris aux États-Unis, continuent d'investir massivement sur les nouvelles technologies, sur le stockage, sur l'hydrogène. Ça se passe plutôt bien et ça montre qu'en fait, on est inarrêtable.
Il faut trouver de l'argent. On parle beaucoup ici de financement innovant, taxer les premières classes des avions, les jets privés, la crypto-monnaie. C'est réaliste ? Parce qu'il faut trouver beaucoup d'argent. 1 300 milliards à partir de 2035.
Il faudra trouver de l'argent à la fois public pour aider les communautés qui souffrent sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on propose justement la France avec quelques pays cette taxation sur les classes affaires ou les jets privés pour aider les communautés. Et puis il faut que les entreprises investissent beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est rentable de lutter contre le changement climatique. Il faut qu'elles viennent avec nous pour justement mobiliser ces 1300 milliards.
Merci Benoît Faraco.
Merci Benoît Faraco. Donc ambassadeur français pour le climat d'avoir répondu à notre invitation en direct depuis Belém. Merci également à vous Véronique Robert-Roth ainsi qu'à Olivia Branger pour les moyens techniques.
C'est ce qu'on appelle le privilège de la fonction.
Oui, hein, le président américain Donald Trump a gracié 77 personnes impliquées dans la tentative d'inverser les résultats du scrutin présidentiel de 2020, dont son ancien avocat Rudy Giuliani, de même que son ex-chef de cabinet Mark Meadows. Les années Covid sont certes derrière nous depuis déjà quelques années, mais leur effet continue parfois à se faire sentir. L'illustration dans la région du Bade-Württemberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, là-bas, plus de 100 000 petites et moyennes entreprises ont eu une très mauvaise surprise. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin. Les patrons de ces PME, Sébastien, ont reçu récemment un courrier leur demandant de rembourser tout ou partie des aides reçues pendant la crise sanitaire.
Oui, ce sont des aides d'urgence versées au plus fort de la crise du Covid pour compenser la perte de chiffre d'affaires. Pour certains, c'était même une question de survie pour éviter de mettre la clé sous la porte. 9 000 euros pour les entreprises de moins de 5 salariés, 30 000 euros pour celles qui comptent jusqu'à 50 employés. Au total, le Land a versé 245 000 subventions pour un montant de 2,3 milliards d'euros. Exemple, ce coiffeur de Heidenheim, près de Stuttgart, qui emploie 16 salariés et qui s'est retrouvé du jour au lendemain privé de ses 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. L'homme a reçu une subvention de 15 000 euros, de quoi atténuer l'impact des 6 semaines du premier confinement de fin mars à début mai 2020. Mais depuis, les autorités régionales lui réclament le remboursement de 10 424 euros. Motif, son chiffre d'affaires, vérifié après la pandémie, s'est avéré meilleur que les prévisions. 117 000 autres patrons du Bade-Württemberg sont dans la même situation, contraints de rembourser ce qu'ils pensaient être une subvention et non pas un simple prêt. L'enveloppe globale réclamée par la région dépasse les 800 millions d'euros. Certains ont porté plainte contre ces recouvrements. Le tribunal de Mannheim doit se prononcer dans quelques jours sur leur légalité.
Merci Sébastien Baer. En plein débat budgétaire en France, l'heure est décidément à l'introspection chez les macronistes. Dernière illustration de cette position désormais inconfortable entre la nécessaire stabilité de l'exécutif d'une part et puis la volonté de se projeter dans l'après-Macron d'autre part. Le débat sur la suspension de la réforme des retraites qui sera examinée demain à l'Assemblée. Un crève-cœur pour le parti Renaissance, mais le prix à payer, fixé en l'occurrence par le parti socialiste pour éviter la censure immédiate. C'est ainsi que le gouvernement a annoncé hier qu'il allait déposer un amendement visant à élargir cette suspension de la réforme aux carrières longues. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors on ne connaît pas encore tous les détails, en particulier la liste donc des publics concernés. Quoi qu'il en soit, cet élargissement était réclamé par la gauche. Et en ce sens, Stéphane, c'est donc une manière pour le gouvernement de faire montre de sa bonne foi pour espérer éviter le couperet de la censure.
Oui, c'est un gage supplémentaire donné en premier lieu au Parti Socialiste qui réclamait l'ajout de cette mesure. Car la suspension de la réforme des retraites, telle qu'ajoutée au projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne concernait pas jusqu'ici les personnes ayant eu une carrière longue. C'est un peu technique. Pour comprendre, il faut voir qu'il y a en France deux conditions pour faire valoir son droit à la retraite. D'une part, il faut avoir atteint l'âge légal, actuellement de 62 ans et 9 mois, et qui est gelé à 62 ans et 9 mois par la suspension de la réforme. Et puis, il faut avoir cotisé 170 trimestres. Là encore, la suspension de la réforme gèle cette durée minimale de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais les personnes ayant eu une carrière longue peuvent partir en retraite avant l'âge légal, dès lors qu'elles ont atteint le nombre suffisant de trimestres cotisés. Or, pour elles, la durée minimum de cotisation n'était pas gelée dans la suspension de la réforme telle qu'elle avait été écrite par le gouvernement. Elle continuait de progresser à 171-172 trimestres. Il y avait un trou dans la raquette, explique le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj. Ce n'était pas forcément volontaire, estime-t-il encore, mais le fait que le gouvernement s'engage à le corriger montre, selon lui, qu'il est de bonne foi. Désormais, tout le monde est concerné par la suspension de la réforme des retraites et c'est exactement ce qu'on demandait, conclut-il. Politiquement, c'est donc un gage donné par le gouvernement aux socialistes, bien sûr, mais aussi et surtout aux écologistes et aux communistes, dont le Premier ministre espère qu'il pourrait s'abstenir pour faire adopter les lois de finances avant la fin de l'année. Et c'est aussi en creux une réponse apportée aux critiques de la France insoumise, qui affirmait que le gouvernement n'avait pas réellement l'intention d'aller au vote et n'était pas de bonne foi.
Merci Stéphane Robert.
La justice a donc choisi hier de remettre Nicolas Sarkozy en liberté.
Et fait sans précédent de remettre aussi Gérald Darmanin à sa place. Plus exactement, la Cour a interdit à l'ex-président désormais sous contrôle judiciaire d'entrer en contact avec l'actuel garde des Sceaux. On se souvient que la visite du ministre de la Justice à son mentor à la prison de la Santé avait choqué nombre de magistrats. À 3 jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, l'ex-compagne de Salah Abdeslam a été mise en examen hier dans 2 enquêtes terroristes. L'une concerne un projet d'attentat djihadiste déjoué et l'autre la remise illicite d'une clé USB au seul membre vivant des commandos meurtriers aujourd'hui incarcéré à la prison de Vandalvieille dans le Pas-de-Calais. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Quant à Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible, il aimerait ouvrir une porte au parti civil dans une démarche de justice restaurative. C'est ce qu'a fait savoir ce matin son avocate. Alors précisons tout de suite que la justice restaurative qui émerge depuis une dizaine d'années en France ne se substitue pas à la justice pénale. Pour autant, pourquoi Salah Abdeslam voudrait-il donc entrer en contact avec les victimes ou familles de victimes? Je vous propose d'écouter son avocate, maître Olivia Ronen, au micro de Jérôme Chapuis.
On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation, par exemple. On a une personne qui, par ailleurs, a présenté des excuses au parti civil lors de son procès, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné, ce qui était tout à fait inespéré. Et une personne aussi qui, potentiellement, aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte au parti civil, si toutefois celle-ci le souhaite, pour pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là.
Il vous l'exprime, ça? Il vous le dit? Entrer en contact avec les parties civiles.
C'est exprimé et ça a été aussi une demande qui a été exprimée par certaines parties civiles de pouvoir entrer en contact avec lui. C'est vraiment des principes de justice restaurative où, en fait, les personnes qui sont mises en cause et les personnes qui ont été victimes des infractions arrivent à dépasser quelque chose pour essayer de viser, et je sais qu'on en est encore loin, mais viser un apaisement social.
L'avocate de Salah Abdeslam, invité ce matin de nos confrères de France Info. Alors, à l'avant-veille des commémorations de ces attentats, plusieurs expositions sont inaugurées ces jours-ci à Paris, mettant en scène notamment des objets liés à l'histoire de cette nuit tragique du 13 novembre. Dès le lendemain, on se souvient de l'apparition dans les rues de la capitale de mémoriaux éphémères, devenus un rituel classique des deuils collectifs et à la fois de milliers de messages, de bougies, de fleurs, mais aussi d'objets les plus divers. Chloé Leprince, bonjour.
Bonjour.
L'une de ces expositions, Chloé, propose de rendre l'éphémère permanent avec des photographies justement de ces objets qui à leur manière façonnent aussi notre mémoire du 13 novembre.
Oui, vous savez, en 2019, on avait redécouvert sur les trottoirs à Paris des objets, des mots qui rappelaient tous ces hôtels de rue apparus dans la foulée du 13 novembre. En fait, c'était une reconstitution pour les rares scènes d'extérieur de la série d'Arte En Thérapie, car la pop culture participe aussi de la mémorialisation de cet événement, comme la culture visuelle. Et au premier anniversaire du 13 novembre, un beau matin, le quartier du Bataclan s'était réveillé avec une poignée d'objets souvenirs taille XXL collés à même les murs dans la nuit par le photographe Yves Samuel, des traces du 13 novembre qu'il avait tenté de saisir à chaud comme des œuvres d'art, comme il dit, Yves Samuel.
J'y allais la nuit parce que je savais que prendre ces objets-là, ça faisait un peu comme si on allait prendre des bouquets de fleurs sur une tombe, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était presque de la profanation de prendre ces objets-là. Et puis mes amis, ils me disaient « tu ne devrais pas faire ça ». Moi, je ne voyais pas le problème parce que ces objets-là, je les mettais en valeur. Et après, donc, je les ai photographiés en studio, sur un fond blanc, avec des éclairages professionnels, avec un appareil photo de très grande qualité qui permettait de faire des grands tirages. Parce que je voulais avoir cette notion de photo monumentale, en fait, que un petit dessin d'un carnet devienne très grand. Ça m'intéressait beaucoup.
Alors, le photographe les remettait en place au petit matin, hein, et c'est cette série photo qui est en train d'être placardée aujourd'hui dans le métro parisien sous forme d'affiches 4x3 sur le quai de la ligne 11 à la station République. La RATP a gracieusement offert à Yves Samuel une semaine d'accrochage à la place de ses encarts publicitaires.
Et ce qui est intéressant, Chloé, c'est évidemment le choix des objets donc, que Yves Samuel a sélectionné.
Oui, la série d'Yves Samuel, c'est une grosse vingtaine d'objets, une guitare brisée, un bouquet de roses qui se décompose, un ours en peluche. Paris est une fête d'Hemingway en poche, des dessins d'enfants. Mais tout n'était pas montrable 10 ans plus tard. Sur le quai de la station République, par exemple, vous ne verrez pas une pancarte où on lisait « Beaujolais, saucisson et spinoza pour tout le monde ». Entre-temps, les apéros saucissons de la droite identitaire sont passés par là et le sens de l'archive risquait d'être détourné. C'est tout l'équilibrisme de la mémorialisation par la création. Hein. Les traces ont un contexte. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail d'Yves Samuel est aussi au Salon Paris Photo qui ouvre après-demain. Une galerie suisse, Claire Baïkan, le représente pour la même série sur le 13 novembre, avec des tirages d'art cette fois.
Merci Chloé Leprince. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Partout ensoleillé, à l'exception de la pointe bretonne, des Hauts-de-France et le long de la frontière belge. Quant aux températures, elles seront comprises entre 12 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.